Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, comme tous les jours, à cette heure-ci. Vous le savez, l'antenne vous appartient dans un instant. Ce seront d'abord vos questions à la rédaction, c'est l'occasion de nous appeler, où que vous soyez, en France ou à l'étranger. Posez-nous toutes vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Il vous manque des clés, des repères pour décrypter tous les sujets que nous traitons à l'antenne. Eh bien surtout, n'hésitez pas, 09 693 693 70, 33 9 693 693. 73 70, si vous nous appelez de l'étranger, et vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Et puis dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur le processus de réconciliation nationale en Centrafrique avec en toile de fond cette initiative lancée par les autorités de Bangui. Durant les 3 prochaines semaines, dans toutes les préfectures du pays, les Centrafricains sont invités à s'exprimer sur les difficultés qu'ils ont traversées depuis le début de la crise politico-militaire, et chacun pourra faire part de ces propositions de sortie de crise. Et toutes ces condoléances seront ensuite compilées et elles serviront de base de travail au forum de réconciliation qui se tiendra dans la capitale centrafricaine. Alors justement, vous êtes à Bangui, vous nous écoutez en ce moment en Centrafrique, dites-nous quelles sont vos doléances, quel message souhaitez-vous adresser aux autorités de votre pays, comment relever le défi de la réconciliation, quels obstacles faut-il surmonter, vos témoignages, vos réactions, 33 9 693 693 73 70. Mais d'abord donc vos questions. Une première question qui nous vient du Burkina Faso. Saïdou est avec nous. Bonjour Saïdou.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors vous avez des questions concernant la lutte contre la corruption en Chine.
Tout à fait.
On vous écoute.
La commission de discipline a clos le mercredi passé en Chine une session relative à la lutte contre la corruption. À ce sujet, j'ai 3 questions à poser. Quelles sont les nouvelles mesures annoncées pour lutter contre la corruption? À quelles répercussions peut-on s'attendre sur les entreprises concernées?
Alors, on va déjà, si vous le permettez, répondre à ces 2 premières questions. C'est vrai que la lutte contre la corruption est l'une des priorités du président Xi Jinping. D'ailleurs, de nombreux responsables ont déjà été arrêtés. Heike Schmidt est la correspondante d'RFI. Elle est avec nous en direct de Pékin. Bonjour Heike.
Bonjour Juan et bonjour Saïdou.
Alors c'est vrai que la semaine dernière, l'organe qui est chargé de lutter contre la corruption a annoncé que cette année, il allait passer au crible les puissants groupes étatiques chinois. Concrètement, quelles sont les mesures annoncées ?
Oui, le communiqué que la commission d'inspection de la discipline a publié après la fin de son plénum est bien laconique. Donc, nous allons renforcer la supervision des entreprises d'État, indique ce communiqué. C'est bien maigre comme info, mais c'est une priorité car dans le passé, l'image des entreprises d'État a été ternie par plusieurs affaires de pots de vin retentissants. La commission a profité du plénum ici à Pékin pour rappeler que les chefs d'entreprise publics n'ont pas le droit de divulguer contre des commissions, bien sûr, des secrets commerciaux ou de faire profiter leurs proches lors d'une entrée en bourse. Mais c'était à peu près tout ce que nous avons appris. Aucune autre mesure concrète n'a été annoncée, mais ça n'a rien d'étonnant, Saïdou. Il faut savoir que la commission de discipline se réunit à huis clos et que tout se passe donc dans le couloir secret derrière des portes fermées.
Effectivement, on va essayer de régler le petit problème de téléphone que nous avons avec vous, avec eux. Quelles retombées cela peut donc avoir sur les entreprises concernées, sur toutes les grandes entreprises d'État ?
Oui, les dirigeants des entreprises d'État auront droit cette année à la visite des équipes d'inspecteurs. Inspecteurs qui vont vérifier les comptes pour savoir si oui ou non ils ont touché des pots de vin. Mais en fait, ce n'est pas une nouvelle démarche. Juan, elle s'inscrit dans la lutte anticorruption lancée par le président Xi Jinping il y a 2 ans déjà. Et depuis, on ne compte plus les patrons qui sont tombés en disgrâce. Par exemple, dans le secteur du pétrole, je pense surtout à Zhou Yongkang qui a été pendant longtemps l'homme fort dans l'industrie du pétrole. Dans son sillage, de nombreux cadres ont été limogés et lui-même attend aujourd'hui son procès. Mais je pense aussi à Liu Zhigun, ministre des chemins de fer, qui a été condamné à la peine de mort avec sursis en 2013 pour avoir accepté des pots de vin de près de 9 millions d'euros. Et à la suite de ce scandale, tout son ministère a par ailleurs été démantelé et rattaché au ministère du Transport.
Ah oui, tout le ministère des chemins de fer a été démantelé. Ce qu'il faut dire, Heike, c'est que en ce moment se déroule une véritable opération main propre en Chine.
Oui, et les mastodontes d'État sont l'un des grands chantiers de cette opération main propre. Et il faut savoir que des pans entiers de l'économie chinoise sont encore contrôlés par l'État, que ce soit le pétrole ou le charbon, les télécommunications ou bien le secteur de l'automobile. Et bien souvent, ces compagnies forment un État dans l'État. C'est un véritable contre-pouvoir. Et Pékin compte donc réduire la place de ces monopoles au profit notamment des PME plus porteuses d'innovation. Mais vous imaginez bien, Saïdou, que cette politique rencontre pas mal de résistance ici. Les grands patrons ne veulent pas perdre leurs privilèges et leur pouvoir. Et donc, quoi de plus simple que de mener ces enquêtes anti-corruption pour briser notamment cette résistance, dans le but justement de mettre au pas les cadres récalcitrants qui tremblent bien sûr déjà à l'idée d'être ciblés par des enquêtes. Et ensuite, le gouvernement aura les mains libres pour réformer l'économie.
Allez, Saïdou, vous aviez une dernière question.
Tout à fait. Sachant que plusieurs dirigeants chinois sont fortement corrompus, quelles pourraient être les conséquences de telles mesures sur la vie politique du pays?
Ah, en quelques mots, Heike Schmidt.
Oui, une chose est sûre, cette purge au niveau des entreprises nationales et dans la fonction publique, c'est le meilleur moyen pour le gouvernement de renforcer son pouvoir et d'éliminer ses adversaires au passage. Autre avantage non négligeable, ces mesures sont populaires et le gouvernement peut donc redorer son blason grâce à cette lutte anti-corruption.
Merci Heike d'avoir été en direct avec nous de Pékin. Bonne fin d'après-midi à vous en Chine. Saïdou, vous nous appelez de Zitenga, hein, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. C'est au Burkina Faso. 33 9 693 693 70. Ce sont vos questions à la rédaction. On a demandé à Pierre Firsion, journaliste politique à RFI, de nous rejoindre. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Des questions concernant les conséquences politiques des attentats de Paris. Une question qui nous vient de Marrakech. Moussa, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour aux auditeurs de RFI.
Vous êtes au Maroc, on vous écoute.
Je voudrais poser ma question concernant Charlie Hebdo et ma question concerne Marine Le Pen exactement.
Oui.
Je voudrais savoir, est-ce que les attentats de Charlie Hebdo ne seraient-elles pas déjà une raison pour qu'elle soutienne sa politique concernant l'immigration en France?
Ah, est-ce que Marine Le Pen peut trouver dans cette attaque, hein, donc l'attentat contre Charlie Hebdo, un moyen de justifier et de défendre sa politique concernant l'immigration? Est-ce que le Front National, Pierre Firsion, fait le lien entre immigration et islamisme radical?
Oui, il le fait depuis quelques jours. Hein, il tente depuis quelques jours de partir sur ce biais-là. On sait que le Front National a toujours eu des positions, vous savez, assez radicales, on va dire, en matière de sécurité et d'immigration. Et donc depuis quelques jours, il le dit, il y a un lien entre islamisme radical et immigration. Marine Le Pen a déclaré vendredi, il faut tarir l'immigration légale et clandestine et cesser d'accepter dans la nation des gens qui n'ont rien à y faire, car selon le Front National, l'immigration engendrerait le communautarisme qui lui-même entraînerait la radicalisation de certains. Alors, le parti propose également de suspendre Schengen, de réviser le code de la nationalité, de supprimer le droit du sol en vigueur en France. Il veut également déchoir de la nationalité française les djihadistes binationaux ou encore instaurer le port de l'uniforme à l'école, autant de propositions radicales que le FN a toujours plus ou moins défendues. Une de ces idées trouve d'ailleurs un certain écho dans la population. Ainsi, 81% des Français se disent favorables à la déchéance de nationalité pour les terroristes binationaux. C'est le résultat d'un sondage qui est paru ce week-end dans le Journal du Dimanche.
Et du coup, Pierre, est-ce que ces attentats peuvent profiter à Marine Le Pen et au Front National.
Eh bien, c'est ce qu'espère le parti, c'est ce que craignent la gauche et la droite. Pourtant, les choses ne sont peut-être pas aussi simples. Une première enquête d'opinion réalisée au lendemain des attaques montre que le parti ne profite pas pour l'instant de ces événements. Le pourcentage de personnes se déclarant proches du FN est le même qu'en décembre, soit 13% des sondés. Marine Le Pen n'a que peu progressé en termes de bonne opinion. Un point de plus au moment où les cotes de François Hollande et de Manuel Valls s'envolent. De plus, selon une enquête de l'IFOP, les citoyens qui considèrent l'islam comme une menace sont légèrement moins nombreux qu'en 2012. Pour l'instant, donc, la formation d'extrême droite ne profite pas de ces attentats, mais sur le moyen et long terme, les choses pourraient évoluer.
Et si le Front National ne profite pas directement de ces événements, c'est peut-être parce que on a bien vu qu'au sein du parti, eh bien, tout le monde ne parlait pas d'une même voix. Il y avait des discours un peu divergents.
Oui, ça a été un peu la cacophonie, on peut le dire, au Front National ces derniers temps. Difficile d'y voir clair. D'abord, dans le discours de Marine, d'un côté, la présidente du FN dit ne pas vouloir faire d'amalgame entre les fondamentalistes et les autres musulmans. Et de l'autre, elle demande la fin, je cite, de l'immigration de masse, car celle-ci générerait le communautarisme qui lui-même engendrerait la radicalisation de certains. Question, ces deux positions ne sont-elles pas un peu contradictoires? Ensuite, certains membres du FN ont tenu des propos pour le moins controversés. Aymeric Chauprade, le chef de file des députés européens frontistes, a ainsi estimé que la France était en guerre contre des musulmans. Ce sont ses mots. Une analyse que ne partage pas Marine Le Pen. Elle s'est clairement démarquée de ses propos. Un fait d'autant plus étonnant qu'Émeric Chopra était encore il y a peu son conseiller aux affaires internationales. Enfin, Jean-Marie Le Pen a dit douter de la réalité de ces attentats, évoquant à demi-mot l'hypothèse d'un complot fomenté par les services secrets français. Réplique cinglante de sa fille, la présidente du FN, les théories complotistes sont dangereuses. Bref, on l'aura compris, Juan, le Front National s'est un peu pris les pieds dans le tapis à l'occasion de ces événements. Non convié à la grande marche républicaine, le parti d'extrême droite a eu du mal à exister ces derniers jours. Et pour tenter de reprendre la main, la présidente du FN a envoyé ce mardi un courrier au président de la République pour réclamer un grand débat national sur toutes ces questions.
À suivre donc. Moussa, on a répondu à vos questions?
Ouais.
Eh ben, bonne journée à Marrakech. Merci de nous écouter sur place. Il est 9h21 à Paris. Merci, Pierre Firsion. À bientôt. 33 9 693 693 70. Roméo nous appelle du Gabon. Il est à Libreville. Bonjour, Roméo.
Bonjour, Noël. Bonjour aux auditeurs de RFI.
Des questions concernant l'humoriste et surtout polémiste français Dieudonné.
Absolument. Donc, Dieudonné a fait l'objet d'une interpellation la semaine dernière pour apologie du terrorisme suite à sa déclaration selon laquelle il est Charlie Koulibaly, alors que le contexte actuel est celui de la proclamation de la liberté d'expression. Donc ma question est double, c'est de savoir ce que prévoit explicitement le droit français en matière de liberté d'expression, et deuxièmement, savoir si l'interpellation de Dieudonné ne constitue pas finalement un recul pour le droit d'expression en France.
Alors c'est une question qui est souvent revenue au standard ces derniers jours. Y a-t-il deux poids deux mesures en matière de liberté d'expression? Basile Adair est avec nous, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes avocat, spécialiste de la loi sur la liberté de la presse, liberté d'expression. C'est vrai que certains auditeurs, et même on a pu le voir au sein de la société française, certains s'étonnent de la différence de traitement entre Dieudonné et Charlie Hebdo. Ce qu'il faut dire, Basile Adair, c'est qu'en France, la liberté d'expression est une réalité, mais elle est encadrée, et elle est encadrée par la loi.
Exactement. Elle n'est pas sans limite, heureusement d'ailleurs, mais même si elle est le principe, c'est-à-dire que il ne peut y avoir de restriction à la liberté d'expression que pour autant qu'une loi précise et dit tel comportement est excessif, est un abus de la liberté d'expression. C'est le cas du délit d'apologie d'actes de terrorisme, et donc il est normal que les propos de Dieudonné ayant été interprétés comme tels, il faut savoir que Dieudonné est écouté et suivi par beaucoup de gens, dès lors qu'il a dans cette phrase loué en quelque sorte ce qu'avait fait Koulibaly, c'était une apologie, c'était une approbation de ce qu'avait fait ce dernier, et ça pouvait encourager d'autres qui le suivent à vouloir réitérer et ainsi avoir à leur tour l'approbation de Dieudonné. C'était donc incontestablement justifié que d'intenter des poursuites contre lui.
Donc lorsqu'on minimise ou lorsqu'on s'amuse d'un fait de terrorisme, on peut donc être poursuivi, et on est donc poursuivi en France pour apologie du terrorisme.
Voilà, on l'est, ça dépend des circonstances, mais lorsque c'est une personne aussi notoire que Dieudonné et dont les propos sont bien pris au premier degré aujourd'hui. Et il ne peut plus bénéficier de l'impunité de l'humoriste. Il a fait l'objet de 12 condamnations pour propos appelant à la haine, antisémite notamment. Donc aujourd'hui, il ne peut plus bénéficier de ce que certains autres humoristes, pour lesquels il n'y a aucune équivoque, peuvent faire valoir, c'est-à-dire que leur propos doit être pris au second degré. Alors pour terminer sur la distorsion apparente pour certains de vos auditeurs entre les deux poids deux mesures, il faut dire que le délit de blasphème, lui par contre, n'est pas dans la loi française. Donc moquer une religion aujourd'hui, et depuis d'ailleurs très longtemps, puisque c'est une loi qui est plus centenaire qui aujourd'hui l'a posée, la loi de 1881, on peut moquer des religions en France sans encourir aucun grief parce que ce n'est pas prévu par la loi française. C'est ça la réponse.
Ben merci d'avoir répondu à Roméo, qui nous appelait de Libreville. Merci Basile Adair, avocat et spécialiste donc de la loi sur la liberté de la presse et liberté d'expression. Il nous reste encore 5 minutes. Une dernière question, on va continuer à parler de Charlie Hebdo. Mais Charlie Hebdo interdit au Sénégal. Jean, bonjour.
Bonjour, Chewan, c'est Georges Ntambwe Munanga de Chikapa, en RD Congo.
Ah, Georges, autant pour moi, effectivement, j'avais mal lu ma petite fiche. Vous avez une question concernant la décision du président Macky Sall d'interdire au Sénégal la vente du numéro spécial de Charlie Hebdo.
Exactement, monsieur Gomez. Je voudrais savoir pourquoi monsieur Macky Sall, le président sénégalais, a-t-il interdit la publication de Charlie Hebdo au Sénégal? Et pourtant, il avait participé à la marche de Paris pour la liberté d'expression.
Bonjour Coralie Piret.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'une des correspondantes d'RFI à Dakar. Faut-il y voir un rétropédalage du président sénégalais?
Alors, au lendemain de sa participation à la marche de Paris, le président Macky Sall a été très critiqué dans la presse et par l'opinion. Le fait que le président, qui est musulman, marche aux côtés des manifestants qui scandaient « Je suis Charlie » a gêné de nombreux Sénégalais, des hommes politiques et même des chefs religieux. Alors, pourquoi? Parce que la majorité d'entre eux condamnent les caricatures publiées dans Charlie Hebdo. Et finalement, la dernière une du journal satirique a été perçue ici comme la provocation de trop. Alors, cette interdiction était pour satisfaire son opinion. Le président Macky Sall s'est défendu de cette décision sur notre antenne. Oui. Pour lui, sa participation à la marche et l'interdiction de Charlie Hebdo sont deux choses bien distinctes. Il est allé à Paris, dit-il, pour indiquer que le Sénégal s'indignait face à ces méthodes barbares et intolérables, avant d'ajouter que son pays est tout de même partisan de la liberté de la presse, mais à condition que cette liberté de la presse n'entraîne pas ce que l'on peut considérer comme une provocation.
Donc Charlie Hebdo interdit au Sénégal, mais ce qu'il faut préciser tout de même, Coralie, c'est que ça faisait plusieurs années, il me semble, que Charlie Hebdo était introuvable au Sénégal.
Oui, effectivement, selon l'agence de presse nationale, cela faisait 2 ans que Charlie Hebdo n'était plus distribué dans les kiosques, même si ce journal n'était pas jusqu'à présent formellement interdit. Et d'ailleurs, Charlie Hebdo n'a pas été le seul à avoir été touché par cette interdiction. Le quotidien français Libération de mercredi de la semaine dernière était introuvable. Pourtant, au moins un quotidien sénégalais a reproduit la une de Charlie Hebdo en miniature au lendemain de sa sortie en France.
Ouais, Libération qui, mercredi dernier, avait repris en une la une de l'hebdomadaire satirique où on y voyait effectivement le prophète avec une pancarte « Je suis Charlie ». Et au-dessus du dessin, ce commentaire, tout est pardonné. Ce qu'il faut dire, Coralie, c'est qu'au Sénégal, le débat est encore bien présent aujourd'hui. Hein.
Oui, effectivement, à la radio, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, les caricatures de Charlie Hebdo continuent d'alimenter le débat. D'ailleurs, une manifestation est prévue ce samedi dans la capitale. Plusieurs organisations, dont la plateforme africaine pour le développement et les droits humains, appellent les Sénégalais à descendre dans la rue pour dire « Je ne suis pas Charlie ». L'organisation rappelle qu'au Mali, au Nigeria, le terrorisme fait de nombreuses victimes. Le grand sérin de Dakar, Abdoulaye Nasser Diop, qui est un chef religieux important au Sénégal, a invité Macky Sall à y participer. Sera-t-il présent? Pour l'instant, personne ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que vendredi dernier, déjà 1 millier de personnes s'étaient rassemblées dans les rues de Dakar pour protester contre ces caricatures. On l'a d'ailleurs vu en fin de semaine dernière, des manifestations similaires dans de nombreux pays musulmans.
Oui, et précisons que le drapeau français a même été brûlé à Dakar devant l'ambassade de France. Coralie, merci d'avoir été avec nous. Coralie Pierret, correspondante d'RFI à Dakar. Reste avec nous tout de suite le journal et on revient dans 10 minutes. On parlera de la réconciliation en Centrafrique.